Bonjour chers auditeurs, petits nouveaux ou déjà un peu habitués. Vous écoutez le direct de rentrée de Transistor, la radio étudiante de l'ENS Lyon, et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans cette grande et belle et magnifique salle du site Descartes, où vous êtes sans doute très très bien installé, pour un peu plus d'une heure d'émission avec une bonne part de la bande de Transistor. Au programme aujourd'hui, de la culture avec En Spectateur, de l'actualité avec le journal radiophonique Amplifié, et quelques autres rubriques surprises. Mais comme dans le JT de Jean-Pierre Pernaut, on commence tout de suite avec le point météo. Bonjour Aurore.
Bonjour.
Vous êtes fatigué ? Non, non, on n'est pas fatigué. Vous êtes fatigué, on n'est pas fatigué. Torse de l'épaule et booty shake. Bien sûr que non, bien sûr que non, on n'est pas fatigué. On ne peut pas être fatigué. Pourquoi ? Vous osez demander pourquoi ? Mais parce que c'est la rentrée, pardi. La rentrée de l'ENS, oui, oui. Mais c'est surtout la rentrée de Transistor. Et face à cette année qui commence, je me sens pleine d'un tonus tonitruant quasi titubant. C'est qu'on a un bon karma. Il fait chaud aujourd'hui, partout en France, et surtout à Lyon, avec 24 degrés Celsius au thermomètre. C'est un coup de chaleur humaine, tout ça. Qui a dit chaleur humaine ? Céline ?
Céline !
Va falloir calmer cette lubie pour Christine and the Queens. Je te signale qu'Interpol est toujours à tes trousses après ses histoires d'harcèlement pour la faire venir à la journée de la radio 2015. Bon, en parlant de Queens, c'est qu'il y en a des belles à Transistor. Et petits voyeurs, vous êtes venus pour vous rincer l'œil, en matant tous nos beaux physiques de radio. Bon, enfin, moi, ça me plaît bien. Bon, notre queen en chef, c'est Marie. Oh, oh Marie, notre présidente à la stature si impériale, à la voix si envoûtante et au cul si... Quoi ?
Comment quoi ? Ça, je... Oui, oui, quoi ?
Quoi ? Non, j'en fais peut-être un peu trop.
Oui ?
Bon, bah, c'est oui. Qu'il faut bien quand même ce qu'il faut pour monter en grade, la flatterie, tout ça, tout ça.
On en discutera après.
Oui, mais bon, après. Je sais bien que le bureau va être renouvelé, mais je ferai du gringo au prochain président, voilà.
Passe sous le bureau,
c'est
là
tout.
Maintenant.
Pourquoi pas ? Donc, non. Je te draguerai
oui.
Jusqu'au bout, parce que non, je n'ai pas honte de donner mon corps à la radio, non.
C'est bien.
Bon, on a des queens, mais on a aussi des kings ici, des hommes brillants et forts, king size, quels sont même nos voix masculines qui glissent sur nos ondes soyeuses. Vroom, vroom, l'année démarre, la sixième année de Transistor. 6 ans qu'on investit tous les internets, tels les lolcats intrépides qui se faufilent partout. Moi, ce que je souhaite à Transistor, c'est de vous avoir dans ses rangs. Car oui, chers auditeurs, chers spectateurs, vous êtes formidables. Bon, je verse un peu dans la niaiserie. C'est pas bon pour ma réputation, ça. Mais la Queen Marie ne peut qu'apprécier mon dévouement pour recruter les espoirs radio de demain. Oui, c'est que j'excelle en rabatteuse. Le règne de Marie s'achève. Oui. La reine est morte, vive le roi, comme on dit.
Merci.
Non, Marie, je ne souhaite pas ta vraie mort. C'est métaphorique, tu sais, c'est une métaphore par rapport à l'histoire de France. Tu connais l'histoire, les rois. Bon, sinon, je peux te conseiller Stéphane Bern aussi.
Oui, bien sûr. Bon, bien sûr.
D'ailleurs, tu sais qu'aujourd'hui, même s'il fait moche à Buckingham Palace, on fête les 63 ans et 216 jours de règne d'Elisabeth II, qui devient
bon
la reine d'Angleterre, ayant régné le plus longtemps. Et j'aimerais que Transistor soit Elisabeth. Non, pas aussi ridée, mais...
Pas avec les mêmes chapeaux non plus.
Oui, évidemment, mais je souhaite de tout mon cœur que le règne de Transistor dure aussi longtemps. Allez, à vous les studios.
Merci Aurore. Donc on a donc 10 secondes de météo et 3 minutes de lèche-botte. C'est bien, c'est intéressant. Et bien on va enchaîner tout de suite avec une météo plus culturelle, n'est-ce pas ? On prend la température de ce qui se fait chez l'association En Scène. C'est l'heure de parler spectacle dans En Spectateur. Rebonjour, chers auditeurs. Vous écoutez le numéro de rentrée dans Spectateur, l'émission de critique de spectacle vivant sur Transistor. Et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Et pour bien démarrer l'année, je vous propose de rencontrer notre tout premier partenaire, l'association En Scène, qui investit très régulièrement le théâtre Cantor. Et pour cela, aujourd'hui, je reçois sa présidente, Camille. Bonjour.
Bonjour.
Ainsi que, en seconde partie d'émission, pour un entretien, Corentin. Bonjour.
Bonjour.
et Adèle.
Bonjour.
Mais donc, on va commencer avec toi, Camille. Alors, il y a sans doute des primo-arrivants dans la salle. En quelques mots, pour nos auditeurs, en scène, qu'est-ce que c'est ?
Alors, en scène, qu'est-ce que c'est ? J'ai été amenée à faire ce genre de discours à peu près 1 milliard de fois depuis le 1er septembre.
Une fois de plus.
Donc, une fois de plus. En scène, c'est l'association qui gère la programmation culturelle de l'école, donc qui va à la fois vous aider à réaliser vos projets, puisqu'on a 2 appels à projets dans l'année qui vous permettent, si vous avez des velléités artistiques, de proposer un projet et de pouvoir éventuellement le jouer dans le théâtre Cantor. Et du coup, c'est aussi l'association qui produit les spectacles, qui organise toute la saison culturelle avec des projets d'élèves tout au long de l'année, que ce soit des pièces de théâtre, des concerts, des spectacles de danse aussi. Et voilà.
Mais alors, c'est d'autres choses aussi. Il me semble qu'il y a un club théâtre, par exemple.
Oui, c'est aussi effectivement des clubs culturels. Alors, il y a un atelier théâtre. Qui a été renommée cette année la vieille branche, qui vous permet, si vous avez envie de faire du théâtre, de monter vous-même sur les planches sans forcément monter un projet, de justement rejoindre ce club théâtre animé par 2 merveilleuses artistes, Séverine et Nadine, qui animent le club toutes les semaines. C'est aussi un atelier impro, où du coup, si vous avez envie de faire du théâtre d'improvisation, vous pouvez rejoindre le club impro. Et cette année, de nouveau, un club chorégraphique qui vous permet de monter un spectacle de danse avec une équipe dynamique, motivée et extrêmement enthousiaste. Et c'est cette année le retour de l'atelier chorégraphique.
D'accord, Camille. Alors du coup, on va pouvoir parler un peu de la programmation dans scène à venir. Qu'est-ce qui nous attend dans les prochains mois avec vous ?
Eh bien, déjà, dans les prochains mois, même pas les prochains mois, les prochaines semaines, nous avons donc le Festival des Cités Muses qui est organisé chaque année. Et cette année, c'est la 10e édition des Cités Muses.
Bon donc, anniversaire, les Cités Muses.
Voilà. Donc, les Cités Muses, c'est un festival de jeunes créateurs qui a été organisé pour la première fois donc il y a 10 ans, qui vise en fait à inviter de jeunes artistes, jeunes metteurs en scène, jeunes comédiens, en voie de professionnalisation, à jouer au cours d'un festival qui dure entre 10 jours et 2 semaines. Cette année, les Cités Muses auront lieu du 28 septembre au 8 octobre. Et donc, c'est pratiquement tous les soirs du cinéma, pour Cités Muses, cinéma, théâtre.
Retour du cinéma, donc.
Oui,
il y a l'année dernière.
Si, il y avait aussi des courts-métrages de l'atelier de réalisation.
D'accord.
Et là, ce sera la même chose. Il y aura 2 soirées de courts-métrages. Donc, des courts-métrages, des pièces de théâtre, des concerts, des pièces de théâtre autant dans le théâtre Cantor qu'ailleurs dans les jardins ou dans l'ENS. Donc voilà, c'est le gros moment culturel de la saison à ne pas manquer.
D'accord. Alors, une fois que les Cités Muses seront passées, qu'est-ce qui nous attend ?
Alors, comme d'habitude, on a un spectacle par mois en Cantor. Donc, le premier spectacle, ce sera un spectacle de théâtre lyrique qui s'appelle La Serva Padrona, qui est une pièce lyrique de Pergolèse, qui jouera les 20, 21 et 22 octobre. Puis, en novembre, ce sera une pièce intitulée Charogne, qui est en fait un diptyque entre Antigone de Sophocle et un monologue de Peter Schaeffer qui a été un diptyque autour justement du thème de la charogne. Et donc en décembre, on aura une pièce qui s'appelle Les Fous Furieux, qui est une pièce écrite par une des membres d'enseigne, Agathe Perrard, qui est au Pôle Technique cette année.
D'accord.
Et qui a écrit et monte sa pièce. Puis en janvier, ce sera Electra Garrigo, qui est une réécriture du mythe d'Electre, montée par Magdalena. Magdalena Bourneau, et voilà. Et du coup, c'est toute la programmation qu'on a cette année, parce que dès octobre, dès sans doute le 13 octobre, pour être très précise, nous lancerons le 2e appel à projet qui permettra de définir la programmation entre février et juin 2016.
D'accord, et donc tout ça se retrouvera donc sur votre site enscène.org.
Voilà.
Alors, on va revenir un peu sur les Cités Muses. Donc, on a eu un petit aperçu, on sait qu'il y aura du cinéma. Est-ce que vous pouvez déjà nous énoncer la programmation et nous parler un peu des spectacles qui vont être proposés plus précisément ?
Alors, donc les Cités Muses commencent le 28 septembre avec une pièce qui s'appelle Perplexe. Alors Perplexe, c'est une pièce qui est montée par des étudiants de l'ENSAT, l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre.
C'est bien.
C'est à Lyon.
Elle a bien réussi.
Et donc, Perplexe, c'est avant toute chose 4 acteurs sur un plateau, 4 égaux, 4 personnages en puissance. On leur a donné une plante, un jouet, des ordures et quelques informations nébuleuses sur ce qu'ils pourraient peut-être raconter ensemble. Et on leur a dit, démerdez-vous.
Donc, ça a l'air obscur.
Voilà.
Mais c'est drôle. C'est très drôle.
Oui.
Bon.
Puis, ça c'est le 28 septembre, on enchaîne le 30 septembre avec une première soirée de projection des courts-métrages de l'atelier de réalisation. Donc on a choisi de faire ça en deux temps, les deux mercredis des Cités Muses, le 30, puis le 6, il me semble.
Il me semble que c'est le 6.
Ouais. Et puis le 6 octobre. Donc voilà, première soirée de court-métrage. Puis le 1er octobre, ce sera la première soirée concert des Cités Muses. Ensuite, le 2, donc vendredi 2 octobre, ce sera une reprise de Orlando qui a donc déjà été jouée dans la programmation l'année dernière en mars.
N'en parle pas trop, je vais te poser des questions dessus.
Très bien, j'en parle pas du tout. Donc Orlando. Puis le 3, ce sera Ce qu'il nous reste, qui est donc le spectacle de Corentin ici présent, enfin dans lequel Corentin intervient en tant que dramaturge et à la technique.
C'est ça.
Puis le dimanche 4, ce sera Amadeus, qui a également joué l'année dernière pendant la programmation, qui est le spectacle de la Vieille Branche, un des spectacles de la Vieille Branche, donc qui revient aussi
mis en scène par
Nadine. Puis donc le lundi 5, ce sera la Grande Loterie du Monde Contemporain.
Qui, oh, ça aussi, c'est obscur.
Oui, non, mais effectivement, les Cités Muses cette année, c'est beaucoup de dynamisme dans beaucoup d'obscurité, donc c'est vraiment la surprise à venir découvrir. Non, mais vraiment, il faut venir découvrir, on ne sait pas ce qu'on va voir, on sait qu'on va passer un bon moment, mais il faut se laisser entraîner.
C'est une programmation qui est très très faite, qui a été très faite au feeling, à l'énergie, en fonction des. En fonction, ouais, voilà, de l'énergie vive que donnaient toutes les compagnies qui se présentaient, donc on sait sur quelle base de. Plaisir on part, on ne sait pas forcément sur quelle logique narrative.
Très bien.
Voilà.
Alors Camille, le temps d'une virgule musicale et tu vas changer de casquette et je vais te retrouver pour parler du spectacle que tu mets en scène aux Cités Muses, Orlando. Bonjour Camille, tes heures, tu es aussi metteuse en scène, qu'est-ce que tu nous joues aussi tes muses ?
Alors, on pourrait dire qu'est-ce que je vous rejoue, puisque le spectacle Orlando a déjà été monté en mars, et en fait, chaque année, on propose à un spectacle de la programmation précédente de rejouer pour le Festival des Cités Muses. Or, cette fois-ci, Orlando, que certains d'entre vous ont peut-être déjà pu voir en mars, il ne s'agit pas d'une reprise, mais d'une recréation, puisqu'en fait, on a en partie réécrit la pièce, retravailler sur l'esthétique de la pièce. Donc en fait, ce sera à la fois complètement la même chose et complètement différent.
Alors, repartons du point de départ. Orlando, à l'origine, c'est un roman.
Oui,
Orlando. Virginia Woolf.
Mm-hmm.
Alors, de quoi ça parle ?
Alors, Orlando, effectivement, comme son nom l'indique, parle d'Orlando, qui est un jeune aristocrate au début du roman qui se situe pendant l'Angleterre élisabéthaine. Et on suit les aventures de ce jeune homme aristocrate un peu nébuleux dans l'Angleterre qui poursuit sa vie au fur et à mesure des époques. Donc, c'est-à-dire que Orlando a toujours entre 18 et 30 ans, même si il est au XVIIe siècle, au XVIIIe ou même en 1920. Donc c'est super, il a vraiment trouvé le meilleur moyen de rester en forme toute sa vie. Mais il lui arrive une mésaventure qui est quand même plutôt... à la fois originale et sympathique, à savoir qu'au milieu de sa vie, il s'endort et quand il se réveille, il devient une femme.
C'est une mésaventure d'être une femme ?
C'est-à-dire que quand, à mon avis, quand tu t'endors au milieu d'une bataille de Turcs à Istanbul,
que tu te réveilles
et que
avec
tu
des
te
boobs.
Réveilles avec des boobs, eh bien, il y a des chances que ce soit vaguement une mésaventure. Mais bon, après, elle s'en sort très bien et justement, toute la suite du roman. Parle de l'adaptation de ce personnage qui a vécu toute sa vie en homme et soudainement se retrouve femme, donc regardée comme une femme vivant dans un corps de femme et comment, quelle différence ça fait, donc toute une grande réflexion sur la condition féminine.
Et alors quel travail d'adaptation vous avez fait pour changer ce roman en pièce de théâtre ?
Alors, c'est Capucine Berton qui a fait l'adaptation du roman au théâtre, donc qui était élève en études théâtrales à l'ENS il y a quelques années. Et en fait, elle s'est majoritairement centrée sur les histoires d'amour d'Orlando qui, en fait, à chaque fois façonnent le personnage. C'est-à-dire qu'au lieu de retracer vraiment chacune des aventures d'Orlando, quelque part, à chaque fois, ce sont des rencontres. Donc, des rencontres avec la reine Elisabeth Ière, des rencontres avec une princesse russe dénommée Sacha, et bien d'autres encore. Et au fur et à mesure de ces rencontres, justement, les personnages se prennent à... En fait, ce sont les personnages qui nous racontent leur rencontre avec Orlando. Pourquoi est-ce qu'ils viennent nous en parler, enfin, à quel point ça les a marqués, à quel point Orlando a pu être une obsession pour eux. Et c'est à partir de, justement, du point de vue des personnages que l'adaptation a été faite, au lieu de centrer le propos sur Orlando directement, de renverser la chose et de dire, eh ben, on va vous parler aussi d'Orlando, plutôt que ce soit Orlando qui nous parle.
D'accord. Alors, si vous voulez retrouver plus d'éléments d'interview, vous pouvez retourner écouter le numéro 34 dans Spectateur, où j'avais déjà interviewé Camille et où Capucine était également présente. Donc tu nous dis qu'il y a eu un certain nombre de modifications qui ont été apportées et qu'on va voir quelque chose de nouveau aussi. Donc je vous invite à retourner voir la pièce ou à aller la voir tout simplement. Tu peux nous dire un petit mot de la troupe avant de nous quitter ?
Alors c'est une jeune compagnie qui est en cours de création, qui s'appelle la compagnie XXY. Et donc l'idée c'est justement de... Il y a plusieurs axes en fait dans le travail de notre compagnie. C'est de travailler justement sur un travail d'écriture, que ce soit à partir d'un roman ou de quelques autres matériaux. L'idée aussi, c'est d'avoir une compagnie qui est le plus mixte possible. Enfin, ça nous tient assez à cœur de justement avoir pas qu'une compagnie avec que des femmes, même si on travaille sur la condition féminine, ou au contraire que des hommes. Donc on est à peu près 4 comédiennes, 4 comédiens. Et... On essaye de travailler justement sur toutes les thématiques qui tournent autour de la question des études de genre, de l'esthétique queer aussi. Et c'est un des domaines qui nous tient vraiment à cœur dans le travail, le travestissement, comment est-ce qu'on mobilise le genre au théâtre, et toutes ces problématiques.
D'accord, merci. Alors tout à l'heure, je vous ai interrompu un peu vite et j'ai squeezé la fin de la présentation des Cités Muses. Est-ce que tu peux nous présenter la suite ? Ça permettra de faire la transition vers nos deux autres invités.
Oui, alors justement, je m'en étais arrêtée à La Grande Loterie du Monde Contemporain qui jouera le 5 octobre. La Grande Loterie du Monde Contemporain, ce sont des fragments de la vie d'un homme et d'une femme dans leur confinement respectif et autour d'eux, à moins que ce ne soit dans leur tête, des opérateurs techniques qui les regardent vivre et les secouent parfois pour voir ce que ça fait. Donc encore une fois, une sorte de pièce bocale expérience dans laquelle on met des gens et on voit ce que ça fait.
D'accord, théâtre expérimental. Alors, quoi d'autre ?
Puis ce sera Maxa, qui est une courte forme qui jouera non pas en Cantor, mais ailleurs dans le Hades, autour du grand guignol et de la figure de Maxa. Puis ce sera In Between le 6 octobre. Alors du coup, In Between, c'est encore une fois une expérimentation sur la notion de frontière et dans quelle mesure est-ce qu'on peut se rencontrer, ne pas se rencontrer, et, enfin la frontière et la rencontre. Et justement, alors là du coup, je change un peu l'ordre des choses, puisque nous avons un dernier spectacle qui s'appelle Foi, dans lequel joue Adèle Gascuel, qui jouera le 4 à deux reprises dans la journée, donc le dimanche 4 octobre, à deux reprises à 14h et 18h30.
D'accord, très bien. Autre chose à ajouter ?
Non, je pense que je vais laisser parler les autres qui sont plus compétents que moi pour parler de leur spectacle.
Merci Camille. Alors je me tourne vers toi maintenant, Corentin. Donc tu vas nous présenter une pièce qui est donc
Ce qui nous reste.
D'accord, donc pour lequel tu as été dramaturge dans une première partie et tu es maintenant à la technique.
C'est ça.
Alors, de quoi s'agit-il ?
De quoi s'agit-il ?
Alors, ce qui nous expérimental ? Reste,
c'est expérimental dans le sens... donc c'est un projet qui est extrêmement ambitieux. J'en suis pas le metteur en scène, c'est Mélina Despretz. Donc c'est toute une compagnie parisienne sous une metteur en scène parisienne. C'est expérimental au sens où c'est un spectacle qui s'est créé en deux parties. Il y a eu une première étape de création de ce spectacle qui a donné un rendu en février qui a été joué à Paris. Après quoi l'équipe a été légèrement refondue. Le spectacle a été démonté et remonté tout simplement parce que c'est un spectacle qui se veut partant des acteurs, partant de ce que chaque individu sur plateau donne. Et donc, du coup, ce spectacle-là qui va être donné, ce qu'il nous reste, est la deuxième partie, c'est-à-dire la partie où le spectacle s'est réadapté à ce que les acteurs donnaient de ce spectacle. Et donc, du coup, on a déconstruit tout ce qu'on voulait monter pour remonter quelque chose à partir de ce qu'il donnait. Ce qu'il nous reste, c'est une trame dramaturgique assez simple, en fait. C'est une étude de la tentative et de l'échec. C'est-à-dire, tout est dans le titre. Qu'est-ce qu'il nous reste pour nous relever constamment, après chaque échec, vers une tentative d'atteindre un idéal, vers une tentative de construire la beauté, vers une tentative de construire la poésie? Pourquoi est-ce qu'on se relève après un échec amoureux? Pourquoi est-ce qu'on se relève ou comment on arrive à reconstruire quelque chose quand un instant de poésie s'est brisé? Qu'est-ce qui se passe quand on profane un instant de beauté? Et tout le spectacle se construit comme ça, sur quelle est cette énergie-là qui nous reste quand on chute à répétition.
D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, sans trop gâcher la surprise quand même, sur ce qu'on va voir sur scène?
Ce que vous allez voir...
On ne va pas s'en remettre.
Si, je pense que vous allez vous en remettre. J'ose espérer que ça va surtout vous parler, parce que moi, tout le long de ce projet, la raison pour laquelle ce projet me touche énormément, c'est que ça joue sur une corde sensible qui est chez tout le monde. C'est quelque chose d'extrêmement universel, parce que c'est quelque chose qu'on expérimente tous les jours. Et à l'échelle de nos vies, quel que soit le domaine, c'est pas que sentimental, c'est pas que professionnel, c'est une condition humaine, entre guillemets, sans vouloir être trop pédant. Ce que vous allez voir sur scène, c'est des gens qui essayent d'être beaux et qui n'y arrivent pas et qui recommencent. C'est des gens qui essayent d'être amoureux et qui n'y arrivent pas. C'est un clown qui essaye d'être drôle et qui en même temps est triste, qui essaye d'être triste et dont on se moque pourtant. Vous allez voir des gens qui ont plus d'autres recours que de s'enfariner la figure pour arriver à faire rire.
D'accord. Alors, tu as dit que c'était une troupe parisienne. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots?
C'est une compagnie entièrement parisienne, donc la compagnie Incarnée, qui n'est pas qu'une compagnie, en fait, qui est une association plus largement, qui s'est créée en 2014, l'année dernière, en juin 2014, qui compte maintenant à peu près 22 membres, qui sont pas du tout que des élèves comédiens. On a des élèves scénographes, on a des graphistes, on a des photographes, on a des vidéastes dans la compagnie. Et donc c'est une association qui ne fait pas que des projets. Ce qu'il nous reste, c'est le premier projet en termes de spectacle. Mais après, il y a une autre diversité, si vous voulez, dans ce qui se fait. Il y a beaucoup d'événementiels, beaucoup d'happenings, de l'animation de festival, du théâtre forain, de l'animation de soirée. C'est extrêmement vaste, des projets photos, des courts-métrages.
D'accord. Et alors pour toi, pour t'intégrer un peu dans cet ensemble, comment ça s'est passé?
Donc moi, je suis à l'origine de la création de l'association avec donc Mélina Despretz, la metteur en scène, et Alexandra Colifrat. On était le premier bureau. Ça a été c'est une association qui s'est montée à l'origine par des amitiés très 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 intenses et très sincères. Et donc du coup, ça se construit un peu comme une grosse famille, quoi. Comme une grosse famille, et ça se construit principalement sur de l'amour. Mais du coup, c'est de très belles relations professionnelles. Parce que c'est une compagnie qui fonctionne exclusivement à la confiance totale en quels que soient ses membres, pour que tous les projets puissent se monter selon les compétences diverses de chacun. Et étonnamment, ça marche toujours à merveille.
D'accord. Alors, simplement pour repréciser un petit peu tes deux rôles, je ne sais pas si tout le monde dans la salle voit bien ce que c'est qu'un dramaturge, par exemple. Quel est le rôle d'un dramaturge? Et quel était un peu ton rôle sur cette pièce?
Il n'y a pas un rôle de dramaturge. En soi, ça dépend de la posture de chacun. Moi, j'étais dramaturge et aussi assistant mise en scène sur la première partie, c'est-à-dire que c'est un conseil et un second regard auprès du metteur en scène sur qu'est-ce que le spectacle renvoie comme sens, qu'est-ce que le spectacle veut dire, qu'est-ce qu'on est en train de dire, est-ce que c'est vraiment ce qu'on a l'intention de dire. La première partie du spectacle travaillait aussi avec des textes de Rimbaud, donc du coup, il y avait aussi une part conseiller littéraire dans la fonction. Et c'est pour ça aussi que je ne suis plus dramaturge sur la seconde partie, c'est pour ça qu'on a changé, parce qu'il y avait aussi une nécessité, puisqu'on refondait le spectacle, de donner un autre regard. Et donc du coup, l'assistante mise en scène sur le second projet, c'est Garance Vallet, qui du coup a servi à donner un autre second regard à la metteur en scène, pour lui permettre de ne pas se perdre entre son idéal et la réalité de son spectacle.
D'accord. Tu nous rappelles la date?
Ça se joue le 3 octobre à 20h30 en Cantor.
Merci Corentin.
Avec plaisir.
Et ma dernière invitée aujourd'hui, Adèle. Alors, tu es comédienne. Qu'est-ce que tu vas nous jouer ?
Je vais vous jouer un solo qui s'appelle Foi. Voilà, qui est un solo autour de la figure de Sainte Thérèse d'Avila.
Alors, quand tu dis un solo, c'est-à-dire ?
Un solo, ça veut dire que c'est un seul en scène. Ça veut dire que c'est un spectacle... Là, je vais le jouer dans une forme courte, donc qui dure 35 minutes. Et je suis seule en scène, même si parfois on espère que Dieu viendra. Si les spectateurs sont très motivés, et bon, j'espère qu'il viendra le 4 octobre. J'ai bon espoir.
Tu as bon espoir. Alors, la jeunesse de ce projet, un peu, tu peux nous en parler ?
C'est un projet qui date d'il y a pas mal de temps. La première création, c'était il y a 3 ans, je dirais. Je l'ai créé. C'était une sorte de débauche de projet de fin d'année quand j'ai fait le Conservatoire de Lyon, qui est une école de jeu à Lyon. Et je l'ai joué à l'Élysée à ce moment-là, au Théâtre de l'Élysée, à la Guillotière. Et suite à ça, le projet s'est repris plusieurs fois. Alors, faut savoir que je ne fais pas tout. Hein. J'ai une metteur en scène qui me dirige. Sinon, ça serait compliqué.
Tu as une metteuse en scène en même temps, pour toi tout seul, du coup ?
Ouais, bah, disons que j'ai eu une première metteur en scène qui a dû partir parce qu'elle avait du travail. Donc, j'en ai eu une deuxième. Et puis, quand on avait créé la version longue, il y a quelqu'un qui est arrivé à la technique. Et donc, parfois, quand je le joue, j'ai 3 personnes pour moi. Mais en général, une personne suffit pour avoir un regard et pour travailler, pour me diriger. Et voilà, du coup, je l'ai joué dans des théâtres lyonnais, au Théâtre des Clochards Célestes, au Lavoir Public, dans des appartements aussi. Et voilà.
Tu fais les représentations privées, d'accord.
Non, c'était public, c'était un... Enfin, public. Station,
dans
station,
la limite de la taille de l'appartement.
C'est un festival où les gens sont invités à faire un parcours à travers les pentes de la Croix-Rousse et à aller voir des spectacles. Voilà, c'était dans ce cadre-là.
D'accord, alors tu nous en dis un peu plus. Alors, bon, donc si tout se passe bien, on verra Dieu sur scène, la présence
divine. Oui, tout à fait.
Que verra-t-on d'autre ?
Alors, que verra-t-on d'autre ? En fait, peut-être pour reprendre la base, Sainte Thérèse d'Avila, c'est une mystique espagnole qui date du XVIe siècle, qui a écrit énormément de textes sur son rapport à Dieu. Qui est notamment connue pour le caractère érotique de ses textes, mais c'est pas forcément le centre non plus du propos. L'idée, c'est de s'approprier ces textes-là et de voir quel est mon rapport à ça. Mais du coup, c'est un jeu entre l'incarnation des textes de Sainte Thérèse d'Avila et puis d'autres personnages qui viennent dialoguer avec ça, qui sont plus ou moins proches de moi, d'elle, ou moi, la personne qui vous invite aujourd'hui à venir voir Dieu apparaître et qui espère que, comme Sainte Thérèse, si je prie très fort, il va venir.
Donc tu coucheras pas avec Dieu sur scène.
Non. C'est pas ce que j'espère. J'espère qu'il va apparaître. Moi, je souhaite l'apparition. Voilà. Mais voilà, ce qui veut dire que je pensais tout à l'heure à cette idée de théâtre expérimental. Je pense qu'il y a quelque chose d'expérimental là-dedans, dans le sens où c'est comment, qu'est-ce qu'on fait de ces textes-là qui datent d'il y a quand même 500 ans et comment on se les approprie et comment on les entend. Après, il n'empêche que c'est un spectacle qui est quand même assez drôle. On va faire une compote de pommes tous ensemble en l'attendant. Enfin,
un truc sympa.
Ouais, voilà. C'est un spectacle qui fonctionne quel que soit. Enfin voilà, qui peut s'adresser à tous et où on s'amuse aussi.
Promis. Tu nous rappelles la date ?
C'est le 4 octobre, du coup. Alors, comme ça dure 35 minutes, il y en a deux.
Deux fois plus d'apparitions divines. On est sacrément
voilà,
chanceux.
Il va peut-être venir deux fois, je ne sais pas si vous imaginez. Et donc, c'est 14h et 18h30. Voilà.
D'accord. Merci, Adèle.
De rien.
Corentin, il me semble que tu veux ajouter quelque chose.
Ouais, je tiens à ajouter quelque chose parce qu'on a fait toute la programmation théâtrale, on a parlé des festivals de courts-métrages, on n'a pas détaillé la programmation musicale puisqu'il y a 2 concerts, donc on a dit qu'il y a le premier concert qui se joue le 1er octobre, qui s'intitule Shake That Swing, et qui sera donc du swing et de l'électro-swing avec 2 groupes dont je n'ai plus les noms là tout de suite. Mais c'est du swing et d'électro-swing.
Ce sera très bien.
Et il y a le concert de clôture, puisque les Cidémus se terminent par un grand concert qui se fait le 7 octobre.
Le 8 octobre.
Et qui s'intitule, donc, c'est la closing party. Et qui fera jouer du coup Electric Safari, donc ça c'est de l'afrobeat. Et le deuxième groupe c'est Wild Wild Waves. Et là je vous conseille tous de prendre vos places parce que ça va être extraordinaire. C'est des basses très très profondes et des très grands espaces et c'est magnifique. Et c'est, ouais. De la pop, du rock, de la trip-hop.
Et où est-ce que ça a lieu ?
Tout ça se fait en festive. Voilà, et c'est pour ajouter une petite ambiance musicale par-dessus ce festival, parce que ce n'est pas que du théâtre, même si
oui,
on en parle beaucoup.
Si t'es muse, il y a aussi le muse de musique,
voilà,
n'est-ce pas ? Alors, chers auditeurs, c'est la fin de ce 45e numéro d'En Spectateur, en direct, en public, avec 3 invités, la totale. J'espère qu'il vous aura plu. À la technique, je remercie Mathias, Nicolas et Clément. Je remercie aussi mes 3 enseignants du jour, Camille, Corentin et Adèle. Et j'espère que nous vous aurons donné envie d'aller suivre la programmation des Cités Muses. Un rappel des dates de début et de fin, s'il vous plaît. Et où est-ce qu'on peut se procurer le pass des Cités Muses ? À quel endroit ? Pour quel prix ?
Alors, les Cités Muses auront lieu du 28 septembre au 8 octobre. Et le pass Cités Muses, vous avez déjà pu le trouver sur la chaîne de rentrée sur la chaîne d'inscription à la rentrée, pendant les permanences, tout ça. Et à partir de 10 jours avant le début des Cités Muses, on va commencer à faire des permanences dans le rue Descartes et dans le hall du site Mono, où vous pourrez acheter des places individuelles pour les spectacles, et aussi le pass Cités Muses, qui coûte 15 euros et qui vous permet de voir tous les spectacles, tous les concerts et toutes les projections. Voilà.
Voilà. Et ben vous savez tout. À bientôt donc, chers auditeurs. Et d'ici là, surtout, n'oubliez pas d'aller au théâtre, à l'opéra ou au ballet. Bref, n'oubliez pas de vivre en spectateur. Chers auditeurs, il est un peu plus de 14h30. Merci d'être avec nous. Dans quelques instants, on parlera sérieux, on parlera d'actualité dans l'Amplifié. Mais juste avant, une petite pause avec Nicolas. Nicolas qui s'est libéré pour venir nous voir aujourd'hui en direct. Mais genre, libéré, délivré. Tu étais enfermé, Nicolas ?
Oui, bien, presque, Marie. Alors, certains de nos auditeurs ont certainement déjà entendu parler de l'agrégation, cette chose
Prenez
terrible.
Tous un air terrifié.
Cette chose terrible qui nous menace tous. Et parfois à notre insu. Parce que moi, au départ, je pensais qu'il s'agissait d'un concours de recrutement des enseignants du supérieur. Et en faisant un tour sur Internet, je me suis rendu compte que la quasi-totalité des gens partagent cette conception qui est complètement erronée. Moi, je vous parle de l'agrégation avec 3G, comme dans gigogne, galactagogue ou encore ganglioplégique. Alors, pour prononcer ce double G au début d'un mot, c'est très simple. Il s'agit de ce son qu'émet un agrégatif après sa première semaine de cours. Alors, l'agrégation, qu'est-ce que c'est ? D'abord, un point étymologique. Agrégation ne vient pas du tout du latin agregatio, qui signifie regroupement d'animaux. D'ailleurs, ce terme pouvait aussi signifier, dans le contexte troublé de la décadence de l'Empire romain, partus frénétique. C'est ce sens, d'ailleurs, qu'on retrouve souvent dans la bouche des candidats à l'agrégation. Non, agrégation, c'est formé à partir du grec « a », privatif, suivi du nom du grand philosophe stoïcien Greg Hassion, ou Greg Hassion dans le texte, né aux alentours de 374 avant Jean-Claude, un homme connu pour son équilibre mental parfait. Littré, lui, définit l'agrégation comme une maladie tropicale qui se traduit par une excitation frénétique à la vue de manuels de cours, de tableaux noirs, qui peut dégénérer très rapidement après une phase de déprime et de fatigue intense. Dans certains cas, on a vu des malades s'évanouir ou pleurer de rage à la simple vue d'un stylo vide ou d'un livre corné. Il y a 3 phases de développement du mal. La phase d'agrégation interne, où seuls les plus proches parents et amis peuvent se rendre compte du changement chez le malade. Puis l'agrégation externe, état de fébrilité intense qui peut parfois amener des personnes autrement tout à fait normales à faire un virement de 2 mois de salaire à la SNCF pour se précipiter à Saint-Maur-des-Fossés dans le 9-4 par 40 degrés à l'ombre pour préparer un montage de chimie organique. La 3e phase, bien sûr, c'est celle de l'agrégation totale, où ne subsiste du pauvre malade que quelques morceaux de chair éparse, encore dégoulinante des restes du cerveau liquéfié, marqué au fer rouge de la formulation vectorielle du théorème de Green-Ostrogradsky. Le cas le plus célèbre, c'est évidemment celui d'Arthur Jacques Duménil, feu Arthur Jacques, qui a atteint cette ultime et fatale phase de la maladie devant ses examinateurs, après quoi son camarade et binôme glissa dans la flaque laissée par Arthur Jacques et mourut sur le coup. Mais quand je dis sur le coup, c'est pas immédiatement, mais bien sur le coup d'Arthur Jacques qui traînait encore là. Voilà.
Merci Nicolas. L'ouverture des inscriptions, c'est demain. Je ne sais pas si je vais m'inscrire en fait, finalement. Merci de m'avoir détrompée. Allez, chers auditeurs, je vous laisse à présent la très bonne compagnie de Clément, Aurore, Jérémy et Maëlys pour l'amplifier, tout de suite sur Transistor.
Les opérateurs font grise mine, peu de volume échangé, une baisse importante du CAC 40.
Et tout de suite, l'édition, le journal de l'émission.
Enfin, samedi, dernier jour de la semaine.
Il y a quelque chose qui me chiffonne. Vous voyez ?
Alors bonjour à tous, chers auditeurs, bonjour à tous ceux qui sont là depuis le début, aux deux, trois têtes qui nous ont rejoints depuis le début de l'enregistrement également. Bienvenue dans l'Amplifié, votre journal d'actualité bimensuel sur Transistor. Alors comme l'ensemble de cet enregistrement exceptionnel de rentrée, ce numéro de l'Amplifié, le 7e, réunit une équipe un petit peu chamboulée par rapport à l'an dernier. Notre cher économiste Lino n'a malheureusement pas pu être parmi nous, il n'y aura donc pas d'économie aujourd'hui. C'est peut-être une bonne chose, je ne sais pas, vous en jugerez en écoutant les anciens numéros. Et Aurore remplace Céline pour un des éditos. Alors, je vous parle de tout ça, mais question légitime, qu'est-ce que c'est que l'Amplifié ? Alors l'Amplifié, c'est d'abord une revue de presse, histoire de se mettre un petit peu dans le bain de l'actualité, une revue de presse qui va ouvrir l'émission avec Jérémy aux manettes. Bonjour Jérémy.
Bonjour.
Alors ensuite, moi, je vous proposerai une enquête sur un sujet très en lien avec l'actualité, qui est la question de la pression migratoire, comme on dit pour faire sérieux dans les journaux européens, et notamment la prise en charge de ces réfugiés qui fuient le Proche et le Moyen-Orient. C'est ensuite à Maëlys que je laisserai la parole. Bonjour Maëlys.
Bonjour.
Alors tu es chargée de nous livrer un billet politique. C'est quoi l'humeur de la rentrée ?
C'est un peu la grosse blague des universités d'été.
Évidemment. Et enfin, c'est Aurore qui prendra la parole. Bonjour Aurore.
Bonjour.
Alors avec toi, on va quitter l'Europe aujourd'hui pour le billet international, c'est bien ça ?
Oui, tout à fait. On part au Venezuela aujourd'hui.
Oui, donc on va partir très loin de l'Europe. Et enfin, après tout ça, on conclura l'émission tous ensemble avec une petite discussion autour de la table sur les thèmes qu'on aura abordés aujourd'hui.
Bonsoir à tous dans l'actualité ce soir.
La revue de presse de Natacha Polony avant de retrouver...
Reportage, on se retrouve après.
Alors l'un des sujets dont on parle beaucoup aujourd'hui dans la presse, c'est la réforme du Code du Travail, Jérémy.
Oui, alors le Code du Travail et sa mort annoncée en fait avec le rapport que Jean-Denis Gombroxel va rendre à Valls aujourd'hui sur le sujet. Et alors c'est l'Opinion qui a réussi à se procurer ce rapport avant tout le monde et qui en livre les bonnes feuilles comme on dit. Et le quotidien libéral se réjouit du contenu du rapport, qu'il partage entièrement, en vantant une rare audace, un rapport pour tout chambouler. Car effectivement, ça va tout chambouler en renversant complètement la pyramide des normes qui encadre le salariat. La loi n'agira qu'en ultime recours. Un renversement législatif majeur donc, mais qui ne va pas assez loin aux yeux de certains.
Ah bon ?
Eh oui, on a Olivier Robert de Massy, toujours dans l'Opinion, dans une tribune, qui voit dans cette focalisation sur le rapport du travail... l'arbre qui cache la forêt. Bah oui, vous comprenez, il n'est pas contre, bien au contraire. Mais il préférerait qu'on piétine aussi le statut des fonctionnaires, qu'on diminue les retraites et qu'on baisse le niveau des indemnités chômage. Donc du coup, on se détourne de l'essentiel. La vie est trop injuste. Au Figaro, les commentaires, faisant fi du contenu même du rapport, font même dans le fatalisme.
Oui, le Figaro.
Le Figaro, quoi. Gaëtan de Capelle parle dans son éditorial d'occasion manquée, sous prétexte que François Hollande, hier, dans sa conférence, a minimisé d'avance les sujets qui seront traités dans ce rapport. Mais en fait, tout ça de manière tellement floue, comme d'habitude, qu'on est libre d'y comprendre ce qu'on veut. Et c'est bien ce que fait le Figaro.
Et dans le reste de la presse ?
Dans le reste de la presse, on a Libération avec un angle d'attaque intéressant. Libération s'attarde sur le contexte médiatique de cette réforme, avec une ironie assez amère. Il souligne notamment un très curieux hasard. Début septembre, Robert Badinter a publié un livre demandant de réformer le Code du Travail. La semaine dernière, c'est le think tank de droite, l'Institut Montaigne, qui publiait un rapport là-dessus. Le même jour, le think tank de gauche, Terra Nova, qui faisait aussi un rapport. Et aujourd'hui, donc une semaine plus tard, c'est ce rapport Gombroxel. Et évidemment, tous avec des conclusions à peu près similaires. C'est la lourdeur du Code du Travail qui est responsable du chômage, comme chacun sait. Très curieuse convergence. Et comme le dit Libération, réformer le Code du Travail serait devenu en quelques mois la nouvelle pensée unique de la gauche dite réformiste jusqu'aux libéraux. Décidément, le clivage droite-gauche a encore bien du souci à se faire.
Et sur un tout autre sujet, ce sont les réfugiés aussi qui continuent d'occuper les commentateurs.
Oui, on va en reparler tout à l'heure. Alors, cette fois, l'émotion s'est quelque peu dissipée pour laisser place à l'anticipation. Et ce qui préoccupe le plus les journaux aujourd'hui, c'est de savoir comment accueillir les 24 000 réfugiés annoncés hier par le président de la République. La une du Parisien aujourd'hui en France, accueil des migrants, la France se prépare. Parce qu'il va bien falloir choisir qui accueillir. Et le quotidien s'intéresse aux critères de sélection qui vont s'opérer. Au-delà des considérations morales, affirme-t-il, peut-on distinguer un migrant d'un autre ? Oui, et c'est d'ailleurs ce qui va se passer. Voilà, c'est dit très nettement. Et dans un billet pour l'Opinion, Luc de Barrochet souligne combien Angela Merkel, après son intransigeance cet été face aux Grecs, a su s'emparer de cette question des migrants. Le génie d'une dirigeante comme Merkel, écrit-il, c'est d'avoir l'instinct politique de saisir le moment exact où elle pourra faire acte d'autorité, mobiliser l'opinion publique derrière elle et entrer dans l'histoire. Pas de générosité intéressant en la matière, donc. Et la politique finit toujours par reprendre le dessus, comme le montrent aussi les divisions chez les Républicains en la matière, dont la presse fait état. D'ailleurs, l'hebdomadaire Le 1 consacre tout un numéro à cette question des réfugiés, avec, à côté d'un poème un peu nunuche de Laurent Godet...
Tu nous en lis pas d'extrait ?
Non, on va passer là-dessus, ça vaut mieux. D'intéressantes remises en perspective historique et démographique, qui valent le coup d'œil.
Et sur un tout autre sujet, un sujet majeur dans vos vies futures, faut-il utiliser les nouvelles technologies pour fliquer ses enfants ?
Bah oui, c'est la question que pose le supplément « Parents et enfants » de La Croix, qui est souvent d'assez bonne tenue, quoi qu'on puisse en penser. Car beaucoup de parents détournent les nouvelles technologies pour en créer des instruments de contrôle sur leurs enfants. Alors, on peut suivre son enfant à distance grâce à son smartphone, ou même carrément, certains osent lui fournir un traceur GPS sous forme de porte-clés. Comme si l'enfant connecté était un enfant protégé. Et 30% des parents avouent espionner leur enfant sur Internet pour s'assurer de leur fréquentation. Évidemment, au risque d'injonctions contradictoires, comme le souligne un psychologue clinicien, les parents offrent à leurs enfants un portable comme symbole d'émancipation, mais aussi en même temps comme objet de contrôle.
Il existe pourtant une manière très simple pour ne pas se faire espionner à cause de son portable.
Mais oui, il suffit de se débarrasser, de le foutre à la poubelle, et le tour est joué.
C'est radical.
Et oui, et c'est ce que prône avec ferveur le réjouissant mensuel La Décroissance, qui se présente comme le journal de la joie de vivre. Alors, on y trouve par exemple un excellent plaidoyer qui fait le lien entre décroissance et sensualité, notamment en matière de gastronomie. Parce que la lenteur fournie par la décroissance, c'est le plaisir des sens. Avec cette belle devise, lentius, suavius, profundius.
Un peu de latin pour se cultiver.
Exactement. Traduction plus lentement, plus profondément et avec plus de saveur. Et bien sûr, ça donne de quoi fermer le bec à tous ceux qui s'imaginent que la décroissance consiste à manger tristement de fat tampinambour bio.
Et pour finir, puisqu'il est question de sensualité, c'est Le Monde qui a décidé de nous parler d'orgasme.
Mais oui, Le Monde toujours promis sur l'orgasme. Mais alors attention, cette fois, orgasme simulé. C'est dans le supplément Science et Médecine. Il y a une équipe de psychologues américains qui a interrogé 900 femmes pour savoir pourquoi elles simulent quand elles simulent. Et résultat, la principale raison, c'est ce que l'article appelle la tromperie altruiste. Pour faire plaisir, pour pas vexer. Sympa, non ?
Effectivement.
Et autre raison invoquée, on fait semblant pour que ça se termine plus vite, pour aller dormir. Ou bien, et ça c'est plus tordu, on fait semblant de jouir vraiment pour finir par jouir par auto-persuasion. Mais l'article ne dit pas si ça fonctionne.
On a donc beaucoup de soucis à se faire sur nos orgasmes, qu'ils soient masculins ou féminins, j'ai l'impression. Alors, merci Jérémy pour cette revue de presse. On va aborder un autre thème d'actualité que tu as évoqué, qui est la question des réfugiés et des migrants. Donc cette question des réfugiés politiques occupe toujours le devant de la scène, de plus en plus depuis quelques mois, avec cette expression bien hypocrite bien abstraite de question migratoire, et c'est ça qui va nous occuper maintenant, puisqu'en ce moment, les migrants en provenance d'Afghanistan, de Syrie et plus généralement du Proche et du Moyen-Orient sont de plus en plus nombreux du fait de la situation géopolitique très troublée et très dure dans cette région du globe. Alors, on commençait presque à s'habituer à ces naufrages en Méditerranée, des naufrages qui suscitaient l'émotion, et seulement l'émotion, dans nos pays occidentaux. En revanche, des réfugiés qui traversent par milliers un pays pour rejoindre l'Europe, ça c'est assez inédit depuis pas mal de temps quand même. Alors, Serbie, Hongrie, Autriche, Allemagne, tous sont dépassés par les milliers de personnes qui arrivent chaque jour, au point que l'Union européenne, encore une fois, ne sait plus trop quoi faire. La chancelière allemande Angela Merkel a finalement autorisé le week-end dernier l'arrivée des réfugiés depuis l'Autriche, dans un geste de solidarité aussitôt condamné par les conservateurs en Bavière.
Alors, l'Allemagne ne nous avait pas habitués, c'est ça qui est surprenant, à montrer un visage aussi accueillant et généreux ces derniers temps vis-à-vis des pays du Sud.
Bah oui, parce qu'après l'intransigeance vis-à-vis de la Grèce, la générosité allemande peut surprendre un petit peu. Mais pas tant que ça, en fait. En réalité, l'Allemagne répond de manière assez pragmatique à la situation. Tu notais le génie politique d'Angela Merkel, et de toute façon, que pouvait-elle faire face à autant de réfugiés à sa frontière ? Notons d'ailleurs que c'est plutôt la société civile allemande qui se mobilise pour offrir à ces réfugiés un accueil digne de ce nom. Ils sont 14 000 rien que dimanche à avoir passé la frontière allemande, et le gouvernement s'attend même à dépasser la barre des 800 000 réfugiés, des réfugiés politiques, admis en Allemagne en 2015.
Bon, et au niveau européen, les choses commencent à bouger, il y a eu des déclarations, non ?
Alors oui, le 3 septembre dernier, c'était la chancelière Merkel et le président Hollande qui ont appelé ensemble à la création d'un mécanisme permanent et obligatoire de relocalisation. On appréciera évidemment cette série de termes très abstraits pour une réalité qui, elle, est beaucoup trop concrète. Le président français a aussi annoncé que la France accueillerait 24 000 demandeurs d'asile supplémentaires. Alors, ces 24 000 réfugiés, 12 000 par an, c'est vraiment pas beaucoup. Parce que rien qu'en juillet, la France a accueilli 6 700 réfugiés via cette procédure de demande d'asile. Bon, et ne crachons pas trop sur l'Europe, elle tente aussi d'organiser l'accueil des réfugiés.
Donc c'est pas gagné, c'est ça ?
Bah malheureusement non, parce que Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, malgré un certain volontarisme sur cette question, a beaucoup de mal à unir tous les États européens. Il a proposé un plan ces derniers jours mettant en place un système de quotas. Chaque pays européen se verrait attribuer un quota de réfugiés à accueillir, à l'exception de la Grèce, de la Hongrie et de l'Italie, du fait de leur situation frontalière. Et tout est pensé pour convaincre les pays européens. La Grèce, la Hongrie et l'Italie se verraient attribuer 500 euros par migrant pour que ceux-ci puissent quitter le pays, tandis que les pays d'arrivée se verraient offrir 6000 euros prélevés sur le budget communautaire par migrant accueilli. Mais le nombre de migrants accueillis, lui, cristallise les tensions. La France devrait ainsi accueillir au moins 24 000 réfugiés supplémentaires d'ici la fin de l'année. François Hollande qui veut bien en accueillir 24 000 dans les deux années à venir tout de même. La situation n'est donc pas vraiment gagnée, effectivement.
Et on voit que dans les réactions des hommes politiques, c'est parfois assez houleux.
Bah oui, parce qu'outre les habituelles déclarations selon lesquelles l'Europe ne peut pas accueillir toute la misère du monde, c'est un mot notamment du Premier ministre hongrois, on entend aussi des choses franchement racistes quand même. Alors ainsi, le maire de Roanne, une ville qui n'est pas très loin de Lyon, hein, ça peut nous donner des idées de voyage, s'est dit prêt à accueillir des réfugiés, mais seulement s'ils sont chrétiens. Bah oui, ma bonne dame, hein, c'est sans doute ce qu'il dit au marché le dimanche midi. Le raisonnement est implacable, on est sûr que ce ne seront pas des islamistes, si on leur demande s'ils sont chrétiens. Hein. Ça me paraît logique, je pense à vous aussi. Et le plus choquant, c'est ce qu'il dit après. Ça mettra peut-être plus de temps pour vérifier que ce sont des gens qui sont bien persécutés, que ce ne sont pas des réfugiés économiques, et qu'ils quittent leur pays en urgence parce que Daesh souhaite les liquider sur leur territoire. Parce que les réfugiés économiques, c'est un leitmotiv qui revient souvent en ce moment.
Et c'est comme ça qu'on appelle l'immigration clandestine maintenant, c'est ça ?
Bah oui, c'est à peu près ça. Marine Le Pen aussi est partie en guerre contre l'accueil de ces réfugiés, considérant, au mépris de nombre d'enquêtes internationales, que 90 ou 99%, je ne sais plus, d'entre eux étaient des hommes venant pour raisons économiques. Parce que, dit-elle, elle a vu les images à la télévision. Et Jean-François Copé, lui, par contre, qui était connu pour ses positions extrêmement dures sur l'immigration, a annoncé vouloir prendre sa part dans l'accueil des réfugiés en tant que maire de Meaux. Alors la politique et les surprises, hein, toujours. Alors on revient en France maintenant pour parler politique et pour prendre un peu la température de cette rentrée avec toi, Maëlys. Alors, Tu as décidé de faire un papier sur les universités d'été, tu as sorti ton thermomètre, tu es allé voir Cambadélis, Sarkozy et compagnie ?
Oh, ben le thermomètre, on n'avait pas besoin de le sortir, hein. Ça a fleuré suffisamment dans les journaux tout l'été pour qu'on se rende compte de l'ambiance. Alors, un petit point rentrée politique, puisque se sont tenues ces 10 derniers jours les universités d'été des principaux partis français. Enfin, université, on n'a pas appris grand-chose, hein. Les universités d'été politique étant à l'université avec un grand U, la fac pour les intimes, ce que Paris Match est à la littérature. Voilà, vous êtes prévenus, j'aurais vraiment voulu vous parler de discours historiques, d'envolées lyriques, des « je vous ai compris », des « vous n'avez pas le monopole du cœur » et autres « je vous demande de vous arrêter ». Réplique qui a sa propre page Wikipédia, oui, oui, vous coucherez moins bête ce soir.
Merci Maëlys.
Non, désolé, pas cette fois-ci. Bon, ce qui est sûr, c'est que cette année, personne n'a eu le monopole du foutoir.
Ah bah disons.
Au menu, des coups d'éclat, coups de poignard et beaucoup de langues de bois. Le changement dans la continuité avec le reste de l'année, vous me direz. La zizanie n'a épargné personne et même les éléphants du Parti Socialiste se sont déchirés comme des fauves. Bon, ça c'est pas vrai du tout, hein, c'était juste pour l'image. Bazar à gauche ou bazar à droite, Clément ? Je commence par quoi ?
Oh allez, bazar à gauche ?
Bazar à gauche. À gauche, toutes ces parties. Au front de gauche, composé du PCF qui est parti à la montagne pour faire sa petite rentrée au Quéraillé, exactement, département de la Savoie, 73, préfecture Chambéry. Et du parti de gauche, le passage à Toulouse.
Il va falloir réviser sa géographie. Hein.
31, département de la Haute-Garonne.
Qu'est-ce que je disais ?
C'est là que ça commence à se muscler un peu. Il y a un peu de bisbille entre Pierre Laurent du PCF et Jean-Luc Mélenchon du parti de gauche. Motif, les prochaines élections régionales dans lesquelles Jean-Luc Mélenchon souhaite réellement élargir, je cite, le front de gauche en direction des Verts, pour former un label commun. Une bien bonne idée sur le papier, mais c'est sans compter Pierre Laurent qui n'a pas manqué de critiquer l'initiative de son collègue. Donc là, je vais citer le Figaro.fr, hein, une fois n'est pas coutume. redoutant que le... Il a critiqué Jean-Luc Mélenchon, redoutant que le front de gauche ne se trouve obligé de remorquer une Europe Écologie Les Verts qui chercherait à sauver les meubles. Bon, concernant Europe Écologie et ses meubles, il n'a pas tout à fait tort, on va en parler tout de suite. Mais pourquoi tant de défiance envers les Verts, me direz-vous ? Eh bien, pardi, à cause de petites histoires d'ego, bien sûr. En cause, le maintien de la candidature en Ile-de-France de Pierre Laurent, soutenu par les communistes, face à Emmanuel Cosse, sainte patronne des écolos, que les mélenchonistes ne veulent surtout pas froisser pour obtenir un accord. Bon, deux contre un, il pourrait peut-être faire plier Pierre Laurent, mais c'est sans compter le fait que Emmanuel Cosse a déclaré en conférence de presse, il y a une semaine, qu'elle était un peu blasée.
Carrément.
Ouais, carrément, et qu'elle ne souhaitait pas spécialement faire un accord avec le Front de Gauche. Donc là, je vais citer Emmanuel Cosse. « Je suis assez fumeuse quand je vois la manière dont d'un seul coup tout le monde a envie de spoiler les écologistes et de penser que nous ne sommes intéressants que quand nous sommes rattachés à eux. Ça vaut pour les socialistes, mais ça vaut aussi pour le Front de Gauche. » Voilà, du coup Mélenchon peut aller revoir sa copie. Manu la fumeuse a dit que le Front de Gauche écolo n'était pas pour demain. En termes d'université d'été, le Front de Gauche n'a pas vraiment à se plaindre, ça aurait pu être pire, ça aurait pu être bien pire, ça aurait pu être celle de Europe Écologie Les Verts à Lille, dans le 59, département du Nord. Voilà. L'été 2015 a été pour ce parti ce que la guerre de sécession a été à l'histoire des États-Unis, mais en pire parce que maintenant il y a deux partis écologistes, depuis la défection de Jean-Vincent Placé, président du groupe écologiste au Sénat, et de Jean-François Rugy, président du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Donc ces derniers se sont empressés de former un nouveau parti, les Tadadam, écologistes, avec un point d'exclamation.
Notons l'originalité.
Situation inédite sous la Ve République, c'est la première fois que deux membres de cette stature se barrent dans leur coin comme ça. Il faut croire que 2,3% des voix aux dernières élections présidentielles, c'était trop pour les Verts, qui avaient besoin de diviser leur score entre deux partis par deux, pour assassiner leurs ambitions et surmonter leurs différends. Donc, je me suis crue à l'université d'été d'attaque sponsorisée par Mediapart, a déclaré Jean-Vincent Placé hier à iTélé en parlant du congrès lillois. Non, c'est pas vrai. Qui eût cru que Europe Écologie Les Verts était un parti bien à gauche ? Il fallait bien y rester 10 ans pour s'en rendre compte. Bon, en même temps, cela faisait des mois que Placé s'empressait de manifester son soutien au PS, voire au gouvernement Valls sur des dossiers aussi écologiquement sensibles que le traitement des migrants, les ZAD, la transition énergétique. Des mois que ça sentait le roussi, on pousserait presque un ouf de soulagement grâce à cette sécession.
Ouais, un portefeuille ministériel, ça n'a pas de prix. Hein.
Voilà, c'est sûr. On passe maintenant au centre. Le PS, réuni à La Rochelle. 17, département de la Charente-Maritime. Bon, personne n'a loupé le discours de Manuel Valls en chemise mouillée de sueur dans la torpeur estivale, telle Vénus sortant des flots. Il a affiché sa fermeté face à l'immigration économique et déclaré sans complexe que les 6 derniers mois en Grèce étaient une leçon politique et éthique pour toutes les gauches d'Europe. Voilà. Le pire, c'est que tout le monde a applaudi. Bon, c'était sans compter la copieuse volée de huées qu'il a reçue de la part de certains jeunes socialistes lors du banquet de clôture, rapporte le journal du dimanche.fr. Une 50aine de personnes auraient hué Valls, scandé des Macron démission et Taubira présidente. Et on en serait venu aux mains.
D'après certains tweets, Manuel Valls aurait même étranglé un militant.
Voilà.
D'après certains tweets.
Donc, selon RTL, le service d'ordre a été obligé de ceinturer le secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis.
Ça virait à l'émeute, en fait.
Voilà. Et le bruit a couru un temps que Manuel Valls avait giflé un militant qui s'était approché un peu trop près et l'avait insulté. Heureusement, cette information a été vite démentie par un autre jeune militant sur le site de BuzzFeed. Donc, Clément, c'est ma dernière chronique, oui. Je cite n'importe qui. Hein.
Oui, 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 vas-y, fais-toi plaisir.
Selon qui, Manuel Valls ne l'aurait pas giflé, mais se serait assis à côté et lui aurait tapoté la joue. Oui, tapoté la joue. Entre nous, une bonne grosse baffe, c'était presque moins rigolo. Je ne vous parlerai pas de l'université d'été de l'UDI parce qu'il n'y en a pas, ni de celle du MoDem parce qu'il n'y en a pas encore, parce qu'elle n'est pas passée, c'est fin septembre. Pour les plus téméraires, c'est du 19 au 21.
Tu t'as noté où c'était ? Il y a peut-être des gens
ouais,
qui ont
envie noté,
de...
Oui, j'avais noté, mais je l'ai effacé.
Bon, bah comme ça.
Je crois que c'était dans le Morbihan, mais à vérifier.
Si vous avez envie de partir dans le Morbihan. Hein.
En Bretagne. Par contre, j'embraye sur les Républicains réunis à la Baule en Loire-Atlantique, donc 44 préfectures Nantes. Très bien. Je vois qu'on suit. Ambiance plus calme en apparence, mais la brochette de sourire forcée entre Fillon, Juppé et Sarkozy pour la photo valait amplement la foire d'empoigne socialiste. Malgré le mot d'ordre « unité exigée », on a bien senti que ça leur coûtait un peu et que chacun avait déjà fait son agenda. D'après RFI, aucun des trois ténors n'a tenu à assister au discours de ses rivaux, notamment Alain Juppé et François Fillon qui se sont dépêchés de rentrer à Paris pour ne pas avoir à assister au discours de Sarkozy. Ce dernier a eu l'élégance de le faire remarquer à tout son auditoire, je cite « Excusez le départ de mes amis Alain Juppé et François Fillon qui prenaient leur train à 16h30 ». Bon, cette touche d'ironie aurait pu être rigolote. Si, je dis bien si, le Canard enchaîné n'avait dévoilé ce matin dans son édition d'aujourd'hui du coup que le voyage en jet privé de Sarkozy pour se rendre à la Baule, pour la modique somme de 25 000 euros d'après le Canard, 12 000 d'après le trésorier des Républicains. Bon, à côté un billet SNCF, ça coûte pas très très cher. Et en tout cas, on peut penser que ça a bien soulagé les quelques 70 millions d'euros de dettes du parti.
Ils vont être obligés de le vendre, le siège rue de Vaugirard, finalement,
ça,
un de ces jours.
Je crois que c'est ça. J'enchaîne et je conclue avec le FN dont on parle comme d'habitude beaucoup trop. Réuni à Marseille, Bouches-du-Rhône, numéro de département 13, très bien. Placé sous le signe de la rupture perfide, vieille base raciste et violente contre FN présentable, on pouvait tout de même croiser des gens du GUD dans les allées. Marie ne renie pas les ses amis de longue date. Rien de neuf non plus du côté des idées, puisque la plupart des journaux ont noté que le discours de la présidente avait de quoi faire jubiler son père. L'immigration est un fardeau, une terrifiante crise migratoire guette, blablabla. Une seule bonne nouvelle dans tout ça, c'est que Jean-Marie Le Pen a décidé de créer un rassemblement bleu-blanc-rouge, plus ou moins en concurrence avec le FN. Bon, le nom est à revoir parce que Nicolas Dupont-Aignan l'aurait déjà déposé, donc affaire à suivre. Si ça pouvait diviser les scores... c'est vrai en plus, hein, c'est pas une blague. Si ça pouvait diviser les scores aux prochaines régionales par deux, voilà qui serait sympa pour la France. Voilà, que du beau pour l'année politique à venir, qui on l'espère sera un peu plus constructive et intéressante que ne l'ont été ces vacances.
Et comme on a les élections régionales en décembre, on peut toujours espérer, je pense.
C'est ça. Je crois aussi que l'automne va être sympa.
Alors merci Maëlys pour ta dernière chronique où tu as cité tout et n'importe quoi. C'est très bien. Bravo, je te félicite. Et c'est maintenant l'heure d'accueillir quelques buenas sondas sur ce plateau. Hein, Aurore ? On va se retrouver après une petite virgule.
Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler aujourd'hui du Venezuela.
Donc, on traverse l'Atlantique.
Tout à fait. Mmh. Parce que pour la première fois depuis 1999, le Venezuela a déclaré l'état d'urgence le 19 août dernier pour 60 jours et a décidé de fermer, de manière indéfinie, 2219 km de frontières avec la Colombie. Donc, des crispations diplomatiques sont palpables entre Caracas et Bogota. Le président colombien, Juan Manuel Santos, a condamné, le 25 août dernier, les violentes expulsions de Colombiens installés dans cette zone frontalière. Le 27 août, la Colombie rappelle son ambassadeur et le Venezuela fait de même avec le sien en poste à Bogota. La crise est manifeste et les tensions évidentes. Mais cette crise diplomatique semble avoir des racines beaucoup plus complexes découlant de la situation instable d'un Venezuela aux abois, comme le titrait Le Monde le 26 août dernier. Effectivement, c'est que la fermeture soudaine d'une partie de la frontière avec la Colombie s'explique surtout par des problèmes internes au pays.
Cette frontière... On a entendu des problèmes de pénurie, notamment dans les médias occidentaux.
C'est exactement ça. C'est-à-dire que cette frontière instable, où pullulent les groupes armés, les guérillas, les trafiquants de drogue, stimule un marché noir phénoménal dans un pays où la contrebande a pris une ampleur considérable depuis que les prix et l'échange sont contrôlés. La contrebande devient même plus rentable que le trafic de drogue au Venezuela, et c'est dire.
Ah oui.
Et elle s'appuie sur les sévères pénuries qui touchent le pays. D'ailleurs, un récent rapport de l'Organisation International Crisis Group sur la situation économique et sociale au Venezuela souligne le désastre de la gouvernance, la dégradation du climat politique et la détérioration de la situation économique. Le pays enregistre l'inflation la plus élevée du monde. La hausse des prix dépassera bientôt la barre des 100%, d'après ce qu'affirme le FMI. La croissance a chuté de 4% en un an. On est toujours dans le trafic de drogue, de 4% en un an. Et le FMI prévoit pour 2015 une contraction du PIB vénézuélien de 7%. Il faut se rendre compte. Le salaire minimum est passé de $170 en septembre 2012 à $14 aujourd'hui.
Et cette grave récession touche directement les populations.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on assiste à une valse des prix qui grimpe toujours en flèche. On peut même voir dans les rues de Caracas des prix écrits à la main qui changent toutes les semaines.
La dernière fois qu'on a vu ça en Europe occidentale, je crois que c'était en 1924 en Allemagne, pour dire un peu l'exceptionnel d'une situation à laquelle on n'est pas habitué.
Tout à fait. C'est-à-dire que le prix du pétrole là-bas, le prix du pétrole en général s'est effondré, et vu que c'est la principale ressource du pays, les rentrées d'argent ne se font plus, le privant de la moitié de ses ressources et de ses devises. Les magasins sont quasiment vides ou dévalisés par les bachaqueros qui revendent les marchandises au prix fort sur le marché noir. Tous les jours, les Vénézuéliens font la queue devant ces magasins vides et ils en arrivent même aux mains. Le manque se fait sentir, mais ce n'est pas la faim qu'ils redoutent le plus dans l'immédiat.
Ah oui ?
Non, parce que le plus inquiétant reste la situation sanitaire qui se dégrade à une vitesse folle.
Qu'en est-elle ?
Les hôpitaux manquent de matériel, d'équipement et les pharmacies ne sont plus approvisionnées. On voit des malades et des femmes enceintes errer d'hôpital en hôpital pour trouver une place. C'est-à-dire que la délinquance explose et l'insécurité est vraiment considérée par les citoyens comme l'un des plus grands problèmes du pays.
Mais non, sur un continent où déjà l'insécurité est un problème global.
Par exemple, petite anecdote, le 31 juillet dernier, un homme a été tué et plusieurs autres ont été arrêtés à San Félix après le vol d'une épicerie et l'attaque de véhicules d'État. Et voilà le pays détenteur d'un triste record parce que le taux d'homicide est le deuxième plus élevé du monde avec 56 pour 100 000 habitants selon les chiffres officiels.
Et dans tout ça, que font les pouvoirs publics en fait ?
L'actuel président et successeur d'Hugo Chavez, Nicolas Maduro, semble préférer l'immobilisme économique cumulé à un durcissement politique plutôt que le dialogue. Le peuple gronde de plus en plus depuis la mort du charismatique Chavez en mars 2013. Un mouvement estudiantin de protestation anti-gouvernement a été lancé le 4 février 2014 et gagne le pays entier, notamment Caracas, la capitale. Le gouvernement de Nicolas Maduro ne semble pas prêt au dialogue. La police n'hésite pas à arrêter et à incarcérer les manifestants qui s'opposent au régime. L'opposition politique est également muselée, surtout en cette période préélectorale. Et là se situe la plus grande crainte et la plus grande faiblesse du gouvernement Maduro. Les élections législatives approchent et l'opposition monte dans les sondages, ce qui est une première depuis l'arrivée de Chavez au pouvoir en 1998.
Oui, il avait complètement bouclé le pays, électoralement parlant.
Tout à fait. Donc cette opposition part favorite pour le scrutin législatif du 6 décembre prochain. Et comme le souligne Marie Del Cas, correspondante du Monde à Bogota, la MUD, c'est-à-dire la Mesa de la Unidad Democrática, peine encore à rassembler tous les déçus du chavisme. Pourquoi ? Parce que ce parti d'opposition, qui est une coalition, reste fragile et est discrédité par des divisions. Même si l'opposition perce, le gouvernement en place la muselle totalement. Le Conseil national électoral a refusé d'enregistrer les candidatures de personnalités d'opposition ayant fait l'objet de sanctions administratives, relate encore Marie Del Cas. Bon, tout ce charabia pour dire qu'en gros, aucun leader opposition ne peut présenter sa candidature aux élections présidentielles parce que pratiquement tous ces leaders ont été arrêtés au moins une fois dans leur vie et suspendus de leurs fonctions politiques. C'est le cas d'ailleurs de Maria Corina Machado, une des dirigeantes les plus radicales de la MUD, qui s'est vue interdite de fonction publique pour 12 ans. Bref, la situation est des plus tendues dans le pays. Et pour couronner le tout, les États-Unis s'en mêlent, réclamant la présence d'observateurs étrangers pendant le scrutin du 6 décembre, comme si on avait que ça à faire. Bon, gardons notre poste d'observation et attendons le 6 décembre. Le peuple vénézuélien devra faire le bon choix.
Espérons qu'une opposition démocratique arrive tout de même à s'organiser. Alors merci Aurore pour ce billet qui est parti outre-Atlantique. On va maintenant ouvrir le dernier temps de l'émission, un temps de discussion, une petite discussion courte aujourd'hui, puisqu'on va revenir sur quelques-uns des thèmes abordés dans l'émission et peut-être d'autres.
Et alors maintenant sur la série.
Un doodle.
Comme les autres, je trouve ça assez maladroit.
Fort conservatisme patrimonial et
c'est. On ne se moque pas.
On fait avec ce qu'on a.
Je cherchais une oui. Contrepétrie avec urne et
j'y passe tous les jours.
Alors, le sujet qui a quand même défrayé l'actualité ces derniers jours, c'est cette question des réfugiés et des migrants. Et on assiste à un véritable ballet politique entre Jean-François Copé qui nous étonne par sa générosité, bon, Marine Le Pen qui ne nous étonne pas par sa générosité, mais ça on y est habitué, Alain Juppé aussi qui a annoncé qu'il accueillerait des migrants à Bordeaux. Recomposition à droite, ça sent les écuries présidentielles, non ?
Ça sent la petite fissure chez les Républicains entre la droite forte et les centristes. Enfin, je ne sais plus si la droite forte encore ou pas, mais voilà.
Mais enfin. Élise toujours dans les années 80.
Ouais, non, mais.
Mais alors là, tout de même, ce qui est intéressant, c'est que François Baroin, qui était l'humaniste à l'UMP, qui était quasiment un homme de gauche, finalement, pour Jean-François Copé, qui était son grand opposant lors de la primaire qu'il avait opposée à François Fillon. Eh bien, lui ne veut absolument pas accueillir de migrants à Troyes. Est-ce que. Qu'en pensez, à votre avis ?
Il n'y a pas de quoi être étonné que le gauchisme de François Baroin ait fait le feu déjà. Je ne sais pas. Mais ensuite, l'idée d'une recomposition entre la frange droite de l'UMP et le FN et tout ce qui gravite autour, on en parle depuis des années, mais on ne voit toujours rien venir. Il y a quand même la logique du parti encore qui maintient les Républicains. Et visiblement, c'est assez solide quand même, hein, malgré les divisions, parfois très profondes.
Je pense qu'il y a des questions électorales derrière, quand chacun fait ses petits calculs suivant son électeur et prononce son discours en fonction de ça. En fait. Et il y a aussi peut-être des logiques locales,
oui.
Le FN n'est pas implanté partout de la même manière. Et donc,
Certains ont visiblement du mal à lire les logiques locales, puisque le maire de Roanne a une très forte communauté d'Europe de l'Est dans sa ville, une communauté originaire d'Europe de l'Est, mais qui vote. Donc voilà, bon, on a le talent politique qu'on peut avoir. Alors, quelque chose dont on n'a pas parlé du tout, mais qui a fait la une de l'actualité, c'est Daesh, comme toujours, Daesh et ses horreurs, avec la destruction du fameux temple de Baal à Palmyre, et puis l'assassinat pur et simple du directeur du site archéologique. On parle maintenant d'une opération armée, alors que les États-Unis bombardent avec des drones depuis maintenant plusieurs mois. Qu'en pensez ? Va-t-on enfin aboutir sur quelque chose ? Est-ce que c'est de la politique intérieure, tout simplement, avec François Hollande qui annonce ça en grande pompe.
Ah, mais je crois qu'avec BHL, on est sauvés. il a tué bien plus de membres de Daesh que toutes les armées réunies qu'on a pu envoyer là-bas. Donc je fais totalement confiance à Bernard-Henri Lévy.
Hein.
Ah oui, toujours nickel.
Oui, mais Bernard-Henri Lévy, toujours présent dans les zones de guerre. Mais bon, voilà, François Hollande a annoncé une opération armée, une partie de la droite. Le soutien. Est-ce que François Hollande court-circuite la droite et se pose, comme après Charlie, en grand président de la République ?
Oui, il y a la volonté comme ça de faire ça le chef de guerre. Il aime bien faire ça. Hein, et ça lui réussit souvent, c'est bien. Mais bon, là, il y a quand même un revirement assez surprenant. Il y a encore 2 semaines, à propos de Bachar al-Assad en Syrie, il disait qu'il fallait qu'il s'en aille. Maintenant, on va de plus en plus vers une réouverture du dialogue avec lui. Ce qui serait quand même peut-être pas une bonne chose, mais en tout cas un moindre mal, parce que c'est encore lui qui dirige le peu d'institutions qui restent en Syrie.
Qui contrôle une partie du pays et de l'armée.
Mais voilà, c'est ça. Mais malheureusement, ces interventions militaires, ça va se traduire par un alignement sur la politique extérieure américaine, comme toujours avec la France depuis une quarantaine d'années. Et il pourra en sortir rien de bon, vu qu'on continue à faire une... Comment dire, à exclure de manière très puissante la Russie des discussions géopolitiques. Et ça ne peut pas marcher sans la Russie, qui intervient en Syrie déjà.
Oui, qui intervient, on a vu des photos, et qui connaît de toute façon le terrain du Moyen-Orient depuis les années 80, et la merveilleuse campagne d'Afghanistan que l'on connaît. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ?
Je pense que, enfin, on ne t'en a pas parlé, mais il y a la corrélation aussi avec les vagues migratoires. Je pense que quand plus grand déplacement depuis la Seconde Guerre mondiale, on se dit qu'il faut faire quelque chose aussi, quoi.
Oui.
Les temps de...
Oui, bien sûr.
Et après, je ne suis pas forcément d'accord avec toi sur Bachar el-Assad, parce que récemment, il y a les chiffres qui sont sortis, et 80% des victimes du du conflit syrien depuis qu'il a démarré en 2011 sont des victimes du régime.
Oui, c'est
en
clair.
Fait.
Oui, bien sûr.
Donc, à un moment, il faut être crédible. Il faut, soit on a des idéaux démocratiques, soit on n'en a pas.
Oui.
Non, mais oui, c'est vrai. Oui. Je pense que la population, auprès de la population locale, il faut être clair, cohérent.
Bon, une affaire à suivre. En tout cas, on verra si cette opération armée se concrétise dans les prochaines semaines et si on rouvre ou pas le dialogue avec Bachar el-Assad. Alors, c'est maintenant l'heure de nous quitter. J'espère que ce numéro de rentrée vous a intéressé, vous a plu. Si vous avez envie de rejoindre Transistor et de passer derrière le micro pour de l'actualité ou pour autre chose, évidemment, n'hésitez pas. Si vous avez tout simplement envie de nous écouter, n'hésitez pas non plus. Transistor.fr est ouvert à tous. Et si vous voulez passer derrière le micro, n'hésitez pas à nous alpaguer, dans les couloirs, par mail, à la piscine, bref. Trouvez-nous. L'Amplifié a également besoin de vous pour continuer cette année, puisqu'on a
une chronique politique qui est vacante.
De même qu'une chronique internationale. Beaucoup de choses se chamboulent pour nous cette année. Bref, nous avons besoin de vous, comme Transistor a besoin de nouveaux adhérents et auditeurs. À vous les studios.
Alors, encore une fois, l'auteur va se faire remarquer, mais on a eu un bulletin pour Zlatan Ibrahimovic quelque part.
Lino, qu'est-ce que tu as prévu pour aujourd'hui ?
Eh bien, Clémence, il faut vraiment rentrer dedans.
Et comme d'habitude autour de moi, Maëlys, Céline, Lino et Jérémy.
Je ne vais pas vous parler non plus de Dallas au pays des fascistes, ou le pseudo-parricide politique d'une fille envers son père qui omnubile les médias depuis quelques semaines. Mon Dieu, que c'est long et que c'est malsain. Franchement, vous en êtes pas marre, vous.
Et la crainte pour les producteurs européens de se voir couper l'herbe sous le pied par les vaches de Nouvelle-Zélande, très compétitives.
0,62 x 600 euros. Clément, tu as la réponse de tête ? Ah, t'es...
Merci à tous les quatre. Alors, chers auditeurs, si vous nous suivez depuis 14 heures, vous savez que nous avons parlé de spectacle vivant tout à l'heure dans Un Spectateur. Mais mercredi, c'est aussi le jour des sorties ciné. Et c'est Céline qui vous en parle. Bonjour Céline.
Bonjour Marie. Alors oui, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de sorties ciné et de Dieu.
Rien
non,
que ça.
Je ne me suis pas récemment convertie à l'église de Scientologie, malgré les arguments plus que convaincant de l'un de ses ambassadeurs les plus sexy, Tom Cruise, qui est en plus au casting du dernier Mission Impossible. Je n'ai pas non plus succombé aux séances de spiritisme de Cemetery of Splendor, le dernier film du Thaïlandais Happy Chatpong Veracetacool, à vos souhaits, actuellement à l'affiche également.
Ah mais trop de suspense, ça nous tue Céline. Est-ce que tu pourrais préciser un peu ? On n'a qu'une seule chronique après tout.
Absolument. Alors, le film en question s'est fait traiter de ratage complet par les inrecuptibles, d'embardées surréalistico-poético-aberrantes ou encore d'accidents industriels aux proportions tchernobylesques par le même magazine.
Rien que ça.
Qui, reconnaissons-le, fait preuve d'une formidable invention dans la méchanceté critique. Mais comme disait l'autre... le train de leurs injures roule sur le rail de mon indifférence. Ça veut dire quoi, ces conneries ? Moi, j'ai été voir le tout nouveau testament de Jacob van Dormael et on est loin du ratage annoncé.
Alors, essaye de nous convaincre, parce que là, pour le moment, ça sent un peu le pipeau, ton histoire.
Sache-le, Marie, jamais je pipote. Pour ce qui est du ratage industriel, pas de cow-boys de Tchernobyl, pas d'animaux préhistoriques partout heures de droite en vue, juste Dieu, sa femme, sa fille et JC. Jésus-Christ, pas Jean-Claude Van Damme, faites un effort quand même. Alors, dans la famille, c'est des badass. Vous connaissez le fils, parti en vrille avec ses 12 apôtres. Il y a aussi le père, un emmerdeur de première. Et puis surtout la fille, une rebelle préado avec son maquillage gothique, enfermée depuis sa naissance dans une maison lugubre. La mère, elle dit rien. C'est Yolande Moreau qui nous fait les yeux doux, haut, effrayés, les trois quarts du film.
Ça a l'air expérimental. Dit comme ça, on peut comprendre les inrecuptibles quand même.
Absolument, Marie. Mais c'est tout le talent de Jacob van Dormael, donc le réalisateur belge du film, d'arriver à broder avec élégance sur une idée au départ géniale. Et si Dieu ne contrôlait plus rien, s'il n'inspirait plus que de la répulsion ou du rire au lieu de la crainte respectueuse qui est inspirée par la peur et qu'on lui doit normalement. Ea, la fille de Dieu, balance les dates de leur mort à chaque homme et c'est toute la machine bien huilée de l'humanité qui se grippe. Il vous reste 5 ans à vivre, il vous reste 7 semaines, il vous reste 24 ans, 3 mois et 20 minutes à vivre et chacun de comparer à son mari qu'on déteste, au patient qu'on soigne, au fils trisomique dont on sait qu'il vous survivra 15 ans, jusqu'au suicidaire multirécidiviste qui sait qu'il n'a rien à perdre et juste la gloire à gagner. Bon, entre nous, il faut avouer aussi qu'il est vraiment con celui-là, mais personne n'est parfait. Alors Ea, dans tout ça, elle va à la rencontre de ses 6 nouveaux apôtres pour faire 18 comme au baseball. 6 existences marquées par le vide, l'insatisfaction, la solitude ou encore la vieillesse. Généralement, c'est là qu'on tire la sonnette d'alarme. Attention, pensum existentiel, manuel de self-help à portée de main. Si le film n'évite évidemment pas tous ces écueils, il est sauvé au moins par des instants de légèreté et par des scènes de rêve absolument surréalistes. En plus, ça n'est jamais graveleux ou même gênant. Jacob van der Mel aime ses bras cassés, cet obsédé, ses assassins, ce petit garçon qui fait s'habiller en fille. Et il improvise délicatement sur le destin des personnages.
Oui, mais Céline, il y a quand même Dieu dans tout ça. C'est quand même facile d'en faire une figure tyrannique, manipulatrice, terrible.
Absolument, Marie. Alors tout le monde s'est demandé un jour pourquoi, si Dieu existe, il autorise autant de malheurs sur la Terre. Et si c'est un peu facile justement de broder sur cette idée-là, c'est aussi absolument jouissif. Dieu, c'est Benoît Poulvorde, en peignoir et chaussettes dans ses claquettes de piscine. Dieu, il a pas la classe, même en faisant un amalgame avec la coquetterie. Il fume comme un pompier en inventant des lois à rendre folle l'espèce humaine. Il crée Bruxelles un jour d'ennui et il commence par la peupler de poules. Dieu est pathétique, mais il est drôle à mourir. Il est cynique à souhait et il est méchant jusqu'au bout des ongles. C'est irrévérencieux et c'est belge. Deux bonnes raisons d'aller voir le tout nouveau Testament, sorti en salle la semaine dernière. J'en profite pour signaler au passage l'immense courage de nos chaînes françaises. Aucune d'entre elles n'a accepté de soutenir financièrement le projet. Trop de subversion ou trop de lâcheté, osons les mots, je vous laisse décider.
Et on reconnaît bien ton côté engagé si saillant quand tu fais partie du journal radiophonique Amplifié. Merci beaucoup Céline pour cette sortie cinéma. Un premier billet de ce genre de ta part que j'ai trouvé très réussi. Chers auditeurs, nous venons de passer une bonne heure et quart ensemble. Il est temps de se quitter. Je remercie tous les membres actifs de Transistor qui ont participé aujourd'hui à ce direct, avec un clin d'œil particulier pour Clément et son inépuisable énergie. On embrasse bien fort ceux qui n'ont pas pu être là et qui sont exilés loin, loin, très loin, à Paris par exemple, Lino et Thomas. On pense aussi à Léo et Xavier tout particulièrement. À la technique, on peut applaudir Mathias, secondé par Clément et Nicolas au jingle. Et puis merci à vous, chers auditeurs, et peut-être futurs animateurs, d'être venus jusqu'à nous. On espère fort que ça vous a plu. On sera ravis de vous retrouver dans cette même magnifique salle le mercredi 23 septembre à 20h pour la réunion de rentrée de Transistor. Bonne saison 2015-2016 en notre compagnie et surtout, excellente journée sur Transistor.